L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité aujourd'hui, c'est Sophie Cohen-Elbaz, la présidente du CRIF Alsace, qui a aujourd'hui un rôle actif dans la lutte contre l'antisémitisme, la veille de cette montée et la mémoire du peuple juif. Sophie Cohen-Elbaz, bonjour.
Bonjour Valérie Vial.
Vous avez pris vos fonctions il y a un peu moins d'un an, à un moment où la voix des juifs français peinait à se faire entendre. Pas de regrets aujourd'hui dans ce rôle de présidente qui est parfois lourd à porter. On ne va pas venir sur le fait d'être une femme ou non à la tête d'une institution aujourd'hui qui doit se faire entendre et qui a peine parfois dans la communauté humaine à se faire entendre.
Non, des regrets certainement pas, parce que vous pensez bien qu'avant d'accepter et de prendre cette fonction, j'y ai réfléchi. Et puis j'étais vice-présidente quand même pendant 2 ans, donc ça m'a permis de prendre la mesure de la responsabilité et de l'engagement que ça nécessitait. Je le vois plus comme comme quelque chose qui me permet de traduire justement ces engagements. Et puis surtout, je m'efface personnellement par rapport à ça. Et ce qui est important, c'est ce que la voix que nous portons et que nous, communauté juive, nous, juifs français et juifs français alsaciens, avons besoin d'élever dans la période actuelle. Donc si j'ai des regrets, on va dire que c'est davantage, c'est pas des regrets, c'est des inquiétudes par rapport à la portée de cette voix, et c'est là-dessus qu'il faut que nous travaillions. Mais à titre personnel, non, évidemment aucun.
Vous le dites, et à raison, juif alsacien aujourd'hui, la concorde en terre alsacienne et mosellane, ça change quelque chose, ça aujourd'hui. Il y a quand même encore un échange entre les communautés religieuses avec l'État également, ce qui n'est pas le cas dans le reste du territoire français.
Alors, avec les communautés religieuses, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se remettre en mouvement. On ne va pas se mentir, l'après 7 octobre a été extrêmement difficile dans les relations et par certains silences, par une difficulté à communiquer ensemble sur le sujet. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose qui se met en mouvement. De toute façon, c'est essentiel parce que nous sommes tous attachés aux valeurs de la République, et c'est là-dedans, dans ces valeurs communes, que nous devons entretenir un lien et un dialogue surtout. J'ai vraiment le sentiment, depuis ma prise de fonction, j'ai peut-être un regard qui est un petit peu différent sur les liens que nous avons avec l'extérieur, et il y a une très forte demande. Je ne parle pas de communauté religieuse en particulier, oui, mais au niveau associatif, au niveau de l'extérieur, il y a une vraie demande, un vrai besoin de créer des liens, des ponts entre la communauté juive, les juifs en général, et les non-juifs, quelle que soit leur obédience.
Justement, aujourd'hui, on parle de solitude des juifs français, mais je pense dans toute la diaspora, il y a quelque chose de compliqué qui est lié à des grands effets d'annonce, etc. Est-ce que vous la ressentez, cette solitude, ou aujourd'hui vous avez le témoignage de soutien d'une grande partie des autres Français? En fait, on peut pas catégoriser les gens, mais en fait, vous avez l'impression aussi qu'il y a beaucoup de gens qui entendent cette souffrance, cette solitude. Dans ce cas précis, je parle toujours de l'après 7 octobre.
Alors, cette solitude, elle a été très forte. C'est vraiment le marqueur. Je pense, quand j'échange avec les personnes autour de moi, c'est vraiment le marqueur spécifique de l'après 7 octobre. Ce sentiment de solitude qui ne relève pas, et je tiens à le dire, ce n'est pas une vue de l'esprit. Ce n'est pas, quand je dis un sentiment, on a l'impression que ce n'est pas objectif. Or, il y a une certaine objectivité par rapport à cette solitude. Cette solitude, elle est déjà due à une réalité, qui est la réalité de l'explosion de l'antisémitisme en France après le 7 octobre. Et cette réalité-là, forcément, elle vous conduit à ce sentiment de solitude. Donc, un sentiment de solitude très fort, avec des moments, comme on aura l'occasion de revenir là-dessus, mais une montée en puissance de la France insoumise, de mouvements extrêmement radicaux qui ont un langage de haine en permanence, et de polarisation. Et dans cette polarisation, l'isolé et celui qui se sent seul, c'est beaucoup le français juif, parce qu'il a l'impression, ce n'est pas qu'une impression, il est montré du doigt, on instrumentalise tout cela contre lui, et cette difficulté-là renforce ce sentiment de solitude.
L'antisémitisme aujourd'hui est politique.
Oui, clairement.
Et politisé, tout du moins.
Il est politisé, il est politique, on revient à une forme, alors je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais quand on reprend les choses rétrospectivement, et c'est toujours ça, je crois que c'est toujours important de se replacer, de prendre de la distance. On est dans le combat, on est dans l'engagement, mais il faut aussi prendre de la distance et du recul et regarder les choses à l'échelle du temps. Et à l'échelle du temps, on se rend bien compte que l'antisémitisme politique est quelque chose qui était très fort, très prégnant en France et dans les autres pays avant 1933. Et donc, et après d'ailleurs, mais disons qu'avant la Shoah. Et donc on revit une forme comme ça d'antisémitisme politique à laquelle nous avions eu l'illusion, je pense particulièrement à ma génération, mais je crois que c'est le cas de toutes les générations qui ont suivi, nous avions l'illusion que nous étions sortis de cette situation, et ce que nous vivons depuis le 7 octobre est un rappel en fait que nous revenons à quelque chose qui a été présent de manière continue en fait.
Est-ce que la surprise aujourd'hui de voir revenir ces paroles antisémites, cette action à peine déguisée, politisée, c'est pour récolter des voix dans certains quartiers populaires, d'aller chercher le vote musulman. Est-ce que aujourd'hui cette parole antisémite qui vient de l'ultra-gauche, de l'extrême-gauche, vous l'avez vu venir, ou est-ce que c'est quelque chose, vous êtes comme tout un chacun, c'est quelque chose que vous n'avez pas senti ou qui effectivement n'avait pas d'effet précurseur? Enfin, on n'avait pas effectivement ce sentiment comme l'extrême droite qui a toujours été encore aujourd'hui, et l'extrême droite qui est aujourd'hui plutôt un ami d'Israël, c'est peut-être encore, alors on rentre dans une partie politique qui est peut-être plus compliquée, mais aujourd'hui en France, cette parole, j'allais dire décomplexée, de l'extrême gauche sur l'antisémitisme, alors l'antisionisme, aujourd'hui on sait que l'antisionisme, l'antisémitisme ont les mêmes bases, est-ce que ça c'est quelque chose que vous avez vu venir?
L'antisémitisme de l'extrême-gauche, de l'ultra-gauche, c'est quelque chose qu'évidemment nous avons tous vu venir parce qu'il est aussi lié à une ambiguïté permanente par rapport à l'islamisme radical. Je pense que le lien est assez fort. Le voir venir, c'est une chose. En prendre la mesure, c'en est une autre. Et saisir à quel point ce langage, par son côté simpliste, binaire, est évocateur chez les jeunes. Et ça, je ne l'ai pas vu venir, non.
Et qui est repris aujourd'hui par d'autres communautés où effectivement il n'y a pas de vraie logique. On parle de la communauté LGBT par exemple, ou des jeunes aujourd'hui dans certaines universités qui reprennent des poncifs antisémites malgré eux, parce qu'aujourd'hui le dialogue n'a pas été rétabli entre effectivement les communautés juives, et il manque aujourd'hui toujours de nuances dans cette communication-là.
Mais je pense que ça dépasse largement les communautés religieuses et ou une communauté en particulier. Je pense que c'est vraiment un sujet politique et qui atteint en profondeur la jeunesse par un discours qui est un discours quelque part séduisant. Je veux dire, qui ne serait pas sensible à la situation de quelqu'un qu'on présente comme une victime perpétuelle? Qui ne serait pas sensible? Regardez, je fais une parenthèse, mais regardez les mots, je me suis attachée à ça, qui sont employés par la France insoumise dans le cadre de son meeting Justice pour la Palestine. On parle de paix, on parle de lutte contre la haine, on parle que de choses qui, en soi,
ne sont pas attaquables,
sont consensuelles. Le problème, ce n'est pas les intitulés, le problème, c'est qu'est-ce qu'ils mettent derrière ces intitulés. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave qu'il faut déconstruire et qu'on ne déconstruit pas par une punchline comme ils y ont l'habitude, mais qu'on déconstruit par une vraie réflexion. Et ça, ça suppose d'avoir aussi une écoute. Et c'est une des grandes missions du CRIF. Hein.
Et aujourd'hui, vous attendez le faux pas, parce qu'en fait, ça arrive toujours un petit peu à passer entre les gouttes. Aujourd'hui, là, je parle de la France insoumise. Hein. On sait qu'au niveau individuel, aujourd'hui, il y a quand même des choses qui tombent. Ils sont passés devant la justice et il y a effectivement des verdicts qui ne leur sont pas favorables. Mais aujourd'hui, la France insoumise passe entre les gouttes. On retient la liberté d'expression, passionnément antisémite. Mais quoi ? Après ça, quoi ?
C'est une question très profonde, en fait. Hein. Après ça, quoi ? Moi, la réflexion que je me fais au vu de l'évolution des choses, d'abord, LFI n'est plus juste un parti passionnément antisémite. Je pense qu'on est sur des paroles, et notamment les paroles qui ont été employées la semaine dernière contre le CRIF, qui devient, c'est pas le CRIF pour le CRIF, hein, c'est que de la même manière qu'on remplaçait le mot juif par sioniste, on remplace le mot CRIF, le mot juif par CRIF. Et derrière, on a un déballement de la pensée la plus caricaturale du complot juif mondial. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on nous a ouvert le protocole des sages de Sion, qu'on prend son petit manuel et qu'on coche à chaque page, hein, quand même. Donc là, on n'est plus sur des sous-entendus ou des... on est sur une parole qui est, effectivement, à mon sens, ouvertement antisémite, dans le sens où elle prend comme point d'appui les préjugés et les poncifs les plus véhiculés. Alors, est-ce que le combat, il est judiciaire ? Il est forcément judiciaire. Ce n'est pas moi qui suis avocate qui vais vous dire qu'il n'y a pas un combat judiciaire. Je pense qu'il y a un combat judiciaire à mener et que, comme tout combat judiciaire, ce n'est pas à une décision que l'on doit s'arrêter. C'est un combat continu et il faut y aller et il faut saisir notre justice parce que nous avons des principes et des lois et il faut les appliquer. Mais le combat ne peut pas être simplement judiciaire. On ne s'en sortira pas et c'est peut-être la conclusion des séquences que nous avons eues ces derniers temps. On ne résoudra pas le problème avec simplement un combat judiciaire. Le combat, il est politique. Il est politique, il doit se traduire ensuite par les urnes, parce que nous sommes dans une société démocratique. Et donc ce combat-là, il doit être mené par tous les partis de l'arc républicain. Et là, j'insiste sur la mission du CRIF, qui n'est jamais une mission partisane, mais qui est une mission de vigilance, d'alerte, pour que les partis de l'arc républicain se saisissent du problème, en prennent la mesure et trouvent une réponse politique.
Sophie Cohen-Elbaz, c'est pour cette raison-là que vous gardez des relations avec tous les élus de l'arc républicain. Aujourd'hui, c'est compliqué, on entend, il y a certains partis d'extrême, que ce soit à droite ou à gauche, qui ne sont pas très fréquentables. Et pourtant, aujourd'hui, ils font toujours encore partie de l'arc républicain.
Tous les partis ne font pas partie de l'arc républicain. L'arc républicain, c'est la défense des valeurs républicaines. Je pense que ça fait longtemps que la France insoumise est sortie.
La démocratie, ce sont les citoyens qui votent, qui décident, pour des élus, pour des députés. Alors, on va revenir sur l'affaire du Palais des Congrès un petit peu plus tard, effectivement, qui a été empêchée, mais qui a été juste déplacée. En fait, le problème a juste été déplacé. Ils ont peut-être eu même des conditions d'accueil qui étaient meilleures. Comment est-ce qu'on peut se battre aujourd'hui, effectivement, contre des eurodéputés qui ont été élus ? C'est totalement démocratique.
Hein. Mais il ne m'appartient pas du tout. Ni de me battre, ni de décider, ni de contester la possibilité pour des élus de la République de s'exprimer, de faire un meeting politique. Ce n'est pas du tout l'enjeu. Ça, je vais être clair là-dessus.
C'était pas votre enjeu, ça, de toute façon.
Non.
Vous, c'était d'interdire la représentation du rappeur très controversé Médine.
D'abord, c'est cette espèce d'association et ce que j'ai appelé, je le dis franchement, un racolage. C'est pas autre chose qu'un racolage. On racole la jeunesse, on racole les gens avec un concert gratuit d'un rappeur qui n'est pas n'importe qui. Ça, c'est vraiment le fond du sujet. Après, il y a le discours de la France insoumise. Et ce discours-là, on doit se battre contre ce discours, mais on doit le dénoncer avec nos outils et nos armes démocratiques. Par contre, cette association avec Médine, elle est symptomatique. Je veux juste rappeler une chose, parce qu'on a parlé de Médine, les Juifs, de Médine, les accointances soraliennes, de Médine, les accointances avec Dieudonné. Je veux dire juste une chose à nos auditeurs, parce qu'elle dépasse la question des Juifs. De toute façon, notre combat, il dépasse toujours la question des Juifs. Que ce soit les Juifs qui soient en première ligne, c'est une chose, mais notre combat dépasse toujours la question des Juifs. En 2015, quand on a cette année qui est terrible, terrible pour la société française, terrible pour la République, qui démarre en janvier avec les attentats de Charlie Hebdo, et qui se poursuit en novembre avec les attentats du Bataclan. Dans cette année-là, Médine chante « Don't laïque ». C'est quoi ce « Don't laïque » ? C'est une chanson contre la laïcité. Alors on peut dire que il aborde la question, etc. Mais il écrit, il chante. Je crucifierons les laïcars comme à Golgotha, je scie l'arbre de leur laïcité avant que l'on les mette en terre. C'est ça, Médine. Cette année 2015, où chacun peut dire où il se trouvait, ce qu'il a ressenti, le cataclysme que cela a eu pour l'ensemble des Français, Médine, cette année-là, chante « Je scie l'arbre de leur laïcité avant qu'on les mette à terre ».
Je sais pas s'il est condamné. On peut pas
non,
condamner dans une
chanson. Il n'a pas été condamné.
Ça reste de la liberté d'expression et artistique.
D'abord, est-ce qu'il y a eu une volonté à l'époque d'aller le poursuivre ? Je ne sais même pas.
Oui.
Et au-delà de cette, c'est pour ça que je pense que c'est un peu la difficulté du débat judiciaire. C'est que le débat judiciaire, il est sur les contours de la liberté d'expression, les contours juridiques. Mais sortons de ces contours juridiques et ayons une position qui est politique. Qu'est-ce qu'il est possible de dire ? Et ce n'est pas seulement ce qu'il est possible de dire. Le problème n'est pas qu'ils le disent. Le problème, c'est qu'ils véhiculent cette idéologie-là à ce moment précis que nous traversons, je dis nous parce que nous l'avons tous vécu comme une atteinte à ce que nous sommes, vraiment à ce que nous sommes. Et lui chante ça. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'il a chanté en 2015 pour 2015, mais quand la France insoumise choisit ce rappeur et personne d'autre, qu'elle le choisit, qu'elle le propulse et qu'elle le propulse gratuitement, on est déjà choqué. Mais quand, en outre, l'affiche nous indique que c'est financé par le Parlement européen, là, on a de quoi s'interroger et aller plus loin que de s'interroger, puisque nous avons, avec Yonatan Arfi, écrit à la présidente du Parlement européen, qui nous a répondu, qui vient de nous envoyer une réponse à ce sujet. Mais donc, on se questionne sur la manière de propulser ces idées-là et de l'image et du symbole que cela représente. Et là, on n'est pas dans une question de liberté d'expression sous l'angle pénal. On est sous un angle qui est un angle de du contenu, de comment est-ce qu'on est en train de véhiculer des idéologies qui sont extrêmement dangereuses et qui sont aux antipodes de nos valeurs républicaines, de laïcité pour ne parler que de ça.
Évidemment, je rebondis sur la réponse de Roberta Metsola. Qu'est-ce qu'elle vous a répondu ?
Qu'elle comprenait tout à fait notre désarroi et notre émoi par rapport à cette situation, que les fonds avaient été utilisés, que ce n'est pas financé directement par le Parlement européen, que c'est financé, ce que je savais, c'est dans le cadre du budget qui est alloué aux groupes politiques, qu'ils vont reposer la question de la manière dont tout cela est organisé. Donc, j'ai cru comprendre que, enfin, je n'ai pas cru comprendre, elle nous a indiqué que ce point serait redébattu au mois de juillet. Et je pense que l'autre question qui reste en suspens, elle est insidieuse. C'est que sous couvert de Parlement européen, de quoi s'est-il agi ? Il s'est agi d'un meeting politique, de lancement de campagne électorale interne à la France, avec en guest star un Médine dont on a vu qui il était. Et donc on est quand même très très loin des préoccupations ou de l'échelle européenne, d'autant que ce budget alloué a pour objet de promouvoir une conscience européenne. Donc promouvoir une conscience européenne avec un Made in, ça pose un problème fondamental.
C'est évident. Sophie Canalbaz, dernière question. La communauté juive aujourd'hui, elle est unie, elle est forte. Vous pensez aujourd'hui qu'elle va ne pas vaciller, rester forte face à l'immensité de cette montée de l'antisémitisme? Comment est-ce que vous sentez les choses? Alors, on est sur un plan vraiment personnel, hein, je ne fais pas appel du tout à l'avocate.
Je vous ai dit tout à l'heure que dans les moments qui sont difficiles, que nous vivons, il faut prendre de la distance et regarder à l'échelle du temps. Et je crois que c'est notre meilleure réponse. Alors, unis, je pense que nous le sommes face à l'adversité, divers, pluriel, avec des différences d'appréciation, voire même des antagonismes politiques, mais heureusement, c'est ce qui fait notre richesse. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas unis. Je pense que ce que nous traversons est une vraie épreuve, mais qui, à l'échelle du temps, on doit se rappeler et puiser dans notre histoire qui est ancestrale, que des épreuves, nous en avons eues, nous les avons combattues, nous avons survécu malgré la tragédie que nous portons chacun en nous. Cette tragédie, elle nous donne aussi de la force pour rester, si ce n'est unis, mobilisés ensemble, quelle que soit notre manière de voir cette lutte, mais mobilisés ensemble pour traverser cette épreuve comme nous en avons traversé d'autres. Nous sommes un peuple ancestral et ce n'est certainement pas la France insoumise ou le déversement de haine auquel nous faisons parfois face ces derniers temps qui vont ni limiter notre combat, ni notre force, ni notre volonté de continuer d'exister encore longtemps et pour les générations à venir.
Ce sera le mot de la fin. Sophie Cohen-Elbaz, présidente du CRIF Alsace. Merci beaucoup.
Merci à vous.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.